Radio Classique, grand témoin. Il est auteur, compositeur, interprète et chanteur dans l'orchestre Banaoké, mais aussi côté du ministre de la Culture en charge de la musique et la chorégraphie, Dombé Opetou Malias Pépin Dombé, et aujourd'hui l'invité des grands témoins. Dombé Opetou, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Avant de commencer notre entretien, j'ai envie de vous demander de me chanter la chanson Mobali et Bébé. Juste un extrait. Je crois que c'est une composition de Simaro.
Mobali a bato, Mobali a bébé. Okovi va mokoko na la razo wa pama. Alali Mobali a bébé. Yo nanga te zali seko ibai. Mobali kitoko ya bébé.
Voilà, merci. Pépin Dombé. Cette chanson veut dire quoi?
Cette chanson voudrait dire que ceci, il y a deux femmes qui ne sont pas légitimes toutes les deux.
Mm-hmm.
Et elles se disputent un homme qui appartient à une autre femme, qui celle-là est légitime.
Ce sont des réalités qu'on vit à Kim. Hein?
Exactement.
En fait, pas seulement à Kim, dans le monde.
Dans le monde, effectivement.
Voilà, avec vous dans cette émission, Pépin Dombé, nous allons parler de vous, de votre carrière musicale, mais aussi du 20e anniversaire de la mort de Franco Luambo Makiadi. Mais avant tout cela, on va vous présenter auprès de nos auditeurs pour qu'ils sachent qui est Pépin Dombé. Dombé Petum, Pépé. Pépé, c'est votre prénom ou c'est un surnom?
Un sobriquet. Je m'appelle de Paul parce que moi, je m'appelle Dombé Paul.
Ok.
Alors, quand j'ai commencé, j'ai débuté ma carrière. C'est ce briquet-là que Tabloïd avait, parce que j'ai commencé avec Tabloïd.
Avec Tabloïd.
Et c'est ce briquet-là qui m'a donné. Et parce qu'à l'époque, chaque artiste, quand il émerge, on lui donne toujours un sobriquet. C'est comme Tabloïd, c'est Rochereau.
Rochereau, oui.
Et Franco, Luambo, c'est Franco. Et ainsi de suite.
Voilà. Vous êtes originaire du Bandundu, vous êtes né en 1944.
Oui.
Quel mois?
Moi, tu as fait le 21 plus précisément, la date.
Et c'est au Bandundu que vous voyez le jour?
À Bagata plus précisément, dans les territoires de Bagata, dans la province du Bandundu, le district du pays.
Et comment vous vous retrouvez à Kinshasa?
Et quand mes parents sont arrivés à Kinshasa, évidemment j'étais encore jeune, mes parents sont arrivés à Kinshasa en 1949. Alors, je n'avais que 5 ans et ils sont arrivés ici, se sont installés à Lingwala, dans la parcelle familiale. À l'âge de 7 ans, ils m'ont fait inscrire à l'école de Notre-Dame du Congo, à l'école primaire là-bas, qu'on appelait à l'époque Sainte-Marie. Et j'ai conduit les études secondaires, toujours dans l'enceinte des mêmes établissements, mais là, à côté, là où devait actuellement le collège Bossembo. Et j'ai fait à l'époque les humanités modernes.
C'est-à-dire?
C'était le début des études de section scientifique, actuellement scientifique et littéraire, commerciale. Alors moi, j'ai fait l'école, c'était l'école moderne, qui est actuellement scientifique. Mais j'ai pas pu terminer parce qu'il a voulu, il a plu au Seigneur que ça soit comme ça.
Pépin Dombé, quel est le plus beau souvenir que vous gardez de votre enfance? Il y en a eu beaucoup, je suis sûr, mais le plus beau qui vous a marqué?
Je ne saurais pas, parce que le plus beau pourrait être peut-être le jour où je suis né, le jour où je suis venu au monde.
Ça, c'est peut-être le plus beau souvenir de votre vie, mais de votre enfance?
Le plus beau souvenir, ça vraiment.
C'est difficile.
C'est difficile.
Vous avez grandi dans quelles conditions? Dans des bonnes conditions?
Ah oui, mon papa fut instituteur. On appelait les moniteurs maîtres. Et vous savez, les instituteurs moniteurs à l'époque, c'était des gars bien. Un papa strict, un papa lettré strict, qui donne la voie à suivre à ses enfants.
Et enfin, déjà, vous rêviez un jour de devenir musicien?
Non, à cette époque, je ne rêvais pas encore. C'est quand j'ai atteint l'âge de 15 ans que je commençais à rêver et à faire la musique. Alors, nous sommes arrivés à Banalongwa. Et c'est de là où j'ai presque grandi. C'est là aussi que j'ai commencé à découvrir la musique. Parce qu'on était proche d'un bar qu'on appelait à l'époque, qui juste maintenant, qui s'appelle Are Chibango. Mais il y avait un bar là, qui à l'époque, qui s'appelait aussi Bar Chibango, Albert. Et ce bar-là, chaque soir, déversait la musique de tous les groupes de Kinshasa. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à
avoir le goût.
Oui, parce que chaque soir, là où il y a le supermarché Michael, c'est là où on allait se mettre, parce que c'était un terrain vide. Et nous allions là-bas avec nos cahiers. On était accouchés sur le sable là. Et on entendait la musique.
Avec les cahiers à la main. Et donc vous faisiez semblant d'étudier. Alors, Pépin Dombé, est-il marié?
Ouh, Pendombé mariée, que Pendombé papa, le père de plusieurs enfants aussi.
Mm.
À un moment, j'ai déjà compris 45 ans de mariage avec maman.
Ah, bravo!
Oui, c'est donc un vieux papa qui est marié depuis.
Père de plusieurs enfants, et parmi vos enfants, il y en a qui ont emboîté le pas de papa.
Oui, il y a un qui a emboîté le pas. Et je suis aussi père de plusieurs petits-fils.
Mm-hmm.
Et ça, vraiment, je m'en réjouis.
Radio Capine, grand témoin.
Ndombe Opetum, alias Pepe Ndombe, auteur, compositeur, interprète et chanteur dans l'orchestre Banaoke. Il est aussi conseiller du ministre de la Culture en charge de la musique et la chorégraphie. C'est le plus grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Pepe Ndombe, parlant de vos débuts dans la musique.
Alors,
vous êtes venu
aider
de faire la musique.
Alors, et comme je ne pouvais pas évoluer faire la musique ici à Kinshasa, parce que papa ne trouvait pas à tout de ça.
Il était strict, votre papa.
Alors, papa avait son ami, papa Momongo, avec qui ils ont étudié ensemble à l'époque là-bas chez nous, à la création des provinces. Dans les années 60, 61, 62, papa Momongo était directeur au service du plan et coordination dans notre province, la province du Kwilu. Et il est venu ici à Kinshasa, il a demandé à papa ce qu'il a avec moi en Makikwit pour que je puisse travailler là-bas avec lui. Et c'était le cadeau qu'il voulait donner à mon papa. Et il m'a mis là-bas, c'est là où j'ai commencé le travail, en 65. Chaque matin, quand je me rendais au travail, j'ai passé devant un bar là, et j'entendais quelques mélodies de guitare, des chanteurs, de la musique. Et un jour, je me suis approché de l'endroit, et j'ai entré, j'ai vu qu'il y avait un groupe de musiciens qui répétaient, et je leur demandais s'ils pouvaient accepter à ce que je leur chante une de mes œuvres, une de mes mélodies. Ils ont accepté, j'ai chanté.
Bon, vous êtes parti au Kwilu, vous composiez déjà à Kinshasa?
J'avais déjà
c'est clair.
Ils m'ont demandé encore quelques, parce que là-bas le style qu'ils adoptaient le plus c'était le style africain ça national dans lequel évoluait Rochon, Nico, tout ça. Alors j'ai chanté une œuvre de Rostand Boulay, et quand j'ai chanté, le propriétaire du bar, le patron du bar, était dans la maison, il est sorti. Quand il a entendu ce toit, il est sorti, il est venu, il m'a vu chanter. Dès que j'ai terminé, ils ont applaudi. Puis il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, si tu veux faire la musique, tu commences ça avec nous ici dans cet orchestre.
Et c'était quoi le nom de l'orchestre?
C'est Select Jazz. Select Jazz. J'ai informé mon patron, le directeur, et je lui ai dit que voilà, je compte faire la musique avec un orchestre ici. Et cela m'a été facilité parce que, vers cette année-là, c'était juste avant la fin de la rébellion. Alors, la ville, il n'y avait pas de distraction. Après le boulot, les gens étaient presque confinés dans leur maison, ils ne pouvaient pas sortir parce qu'il fallait qu'il y ait un orchestre qui puisse aider les gens le soir pour que les gens puissent un peu oublier le stress
de la guerre. Est-ce que ce n'était pas fatigant pour vous?
Bon,
le marché de la répétition et le soir.
Et j'avais quel âge?
Vous aviez quel âge?
Et j'étais très jeune. Hein. J'étais très jeune, j'avais à peine 20 ans.
Mm-hmm.
Donc c'était pas très
c'était pas compliqué, quoi.
Non, c'était pas compliqué. Il n'y avait pas un effort physique à fournir pour se faire fatiguer. Je m'en sortais très bien. Et c'était parfait comme ça.
Et en 1968, vous êtes aux côtés de Taboulay et l'African Siesta.
Oui.
Donc vous êtes venu à Kinshasa.
Oui, et bon, en tant que fonctionnaire, cette année, on nous accordait des vacances, des congés.
Uh-huh.
Et cette fois-là, je suis revenu à Kinshasa pour voir les parents. Quand c'est arrivé, et c'était juste à la période où les Taboulay avaient perdu ses anciens musiciens, uh-huh, notamment à Samangwana, et Michel Mavatiko, Michelino, et Divano, mon cousin, me connaissant depuis quand j'étais à Kikwit, qui chantait, et Taboulay aussi, avait déjà eu des échos, des gens qui venaient à Kikwit, et qui me voyaient, qui venaient au concert, qui me voyaient, et quand il a fait, je suis rentré, mon cousin est allé le voir pour lui dire, voilà, le petit est arrivé, il faut saisir l'occasion, comme Sam est parti avec les autres musiciens, c'est l'occasion à ne pas rater. Et il m'a pris de sa voiture, nous sommes partis jusque chez lui, nous sommes rentrés dans la maison, j'ai trouvé des gens à l'intérieur, des instruments installés. Ils m'ont demandé quelle chanson tu peux chanter pour nous faire voir effectivement que tu chantes bien. Moi, je leur ai dit, tout le répertoire du Taboulé, je le connais. C'est celui qui chante en solo.
En fait, c'était un peu votre idole, quoi, Taboulé.
Oui, c'était mon idole. Ils m'ont demandé de chanter quelle chanson j'ai choisi, Michelina. Baboka, Nazalina na yo seye, Tina yebi, Mokolo monsa soto komo nana, Michelina, Ozeri seko minyo kolo panda, Pona koni langa, Nazali kaka mo paya, Nako yi kanzela.
Et là, c'est vraiment comme Taboulé.
Et voilà, c'était parti, ils ont applaudi, et puis après, c'est parti.
Et en 1973, vous quittez Rochereau pour fonder votre groupe à vous.
Oui, il y a eu certaines gestions, peut-être on sait c'était les éléments du succès qui ont fait qu'on n'a pas pu maîtriser le groupe. Et nous sommes partis avec des amis.
Mais est-ce que de votre part aussi, ce n'était pas parce que vous étiez maintenant connu, populaire, que vous êtes dit non, créons un groupe pour devenir leader?
Mais je pense que la vie, c'est toujours l'aventure. Hein. Peut-être que ce que j'ai fait là, c'est grâce à ça que vous me parlez aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de ceux avec qui nous avons commencé ensemble à l'époque et qui sont restés fidèles, ils ne sont plus sur scène. Et moi, comme je me disais, je dois faire de la musique toute ma vie. Donc pour moi, la musique, je devais réussir coûte que coûte, quelle que soit la voie que j'allais suivre. Mais je devais réussir pour faire de ma famille ce qu'elle est maintenant. Et j'ai monté, nous avons monté ce groupe avec des amis, un Pompoloy, Mavatico Michelino, Tocassa.
Et c'était quoi le nom du groupe?
Afrizam.
Afrizam, pourquoi?
Afrizam, Africain Zaïrois dans la musique.
Ah, d'accord.
Et quelques années après, donc 5 ans après, parce que c'était en 75, j'étais un peu là-dessus, le comportement de ceux qui étaient avec moi. Bon, je voulais aussi leur faire savoir que, même s'ils ne sont pas avec moi, moi je peux aller à côté, je sais comment faire pour garder toujours ce que je suis. J'ai mis fin à l'orchestre, j'ai récupéré mes instruments, et ils sont partis. Il y a un ami à côté du quartier, voilà, qui est allé dire, enfin voilà, Nombé a cessé avec son groupe, il voudrait intégrer l'administration. Alors, on voit, non, il faut aller me chercher. Parce que j'ai vu avant, quand Franco m'avait découvert, quand j'avais commencé ma carrière, à côté de Taboulé, la première chanson que j'ai sortie, et tout le monde a fait un succès, et un jour, Franco m'a invité.
C'était quoi la chanson déjà? C'était une composition de Pépé Nombé.
Oui, ma première chanson, c'était Hortense. Naki, ma zombie qui fait ça. Hortense, moi, oh, mon thème, et c'était parti, la chanson a fait succès, la chanson a fait tabac. En 75-50, j'ai pris ma décision là, il enverra quelqu'un, un ami à nous, lui et moi, il a souhaité que je fasse et que j'intègre son groupe. Franco m'a été de beaucoup pour moi sur le plan social.
Quand vous avez intégré le tout puissant K Jazz, vous avez trouvé Simaro, Kiambukuta, Joski, ou bien vous êtes venus tous au même moment?
Non, Simaro c'est depuis 61 qu'il est avec, il est dans le K Jazz avec Franco. Et Joski c'est en 72. Nous sommes venus en 75, moi, Mavatico Michelino, un Pompoloy, Papa Noël, et d'Alliance. Ils sont retrouvés dans le kitchen.
Voilà. Et à la mort de Franco en 1989, c'est la dislocation de l'orchestre. Qu'est-ce qui s'était passé?
Non, c'était pas à cette année-là.
Non, juste après sa mort.
Juste après sa mort. C'est en 1994 qu'il y a eu cette dislocation, s'il faut dire comme ça. Après la mort de Franco, Simaro qui devait conduire l'orchestre.
Uh-huh.
Parce que quand Franco était en vie, Simaro a toujours été la deuxième personnalité de l'orchestre. Et il y a eu des amis qui voulaient exploiter l'opéra beaucoup plus. Ils trouvaient en Simaro quelqu'un qui gênait leurs idées là. Ils ont écrit une lettre, une note là pour le destituer comme président du groupe, et en cherchant à nommer une autre personne qu'ils auraient estimé ne pas être capable de nous diriger.
Et c'est pas compétent?
Il y avait un peu beaucoup là-dedans. Et quand Franco est mort, bon, le seul qui pouvait tenir ce coup, c'est Simao, parce que Simao, c'est depuis, et puis Simao a fait plus beaucoup de œuvres qui ont fait que Luke Jazz était ce qui n'était là. Et de faire partie comme ça, nous n'avons pas pigé ça. Est-ce que si nous nous sommes décidés, nous l'avons dit dans ce cas, on laisse le groupe, nous montons pour Panon, où tu seras le meneur. Avant, il avait des hésitations, on l'a convaincu. Et ils sont partis, il a déclaré officiellement là où nous jouons, sur le Marco Salin, c'était un dimanche 2 février 1994. Qui a déclaré ça. Il y a eu des gens qui pleuraient, il y a eu des interventions partout là. Mais nous sommes restés fermes dans notre position.
Vous avez décidé de monter votre groupe à part.
Oui.
Et vous avez même changé le nom de l'orchestre.
Pour ne pas être ingrat envers Franco, nous avons dit Bana Ok. C'est-à-dire les enfants de Okie Jazz.
Et donc le tout puissant Okie Jazz n'existait plus.
Le tout puissant Okie Jazz n'existait plus. Le mot tout puissant là est venu quand nous sommes rentrés, quand on nous a engagés dans ce groupe. Ceux qui étaient considérés comme les jeunes les plus jeunes, Nomé, Nkompolowa, Mavatikou, Samangwana, Yulu Mariala, qui aiment beaucoup d'Ajoski. Et c'est à ce moment-là que Franco a dit. Il a tous les grands de la musique de l'époque. Alors il faudrait que l'orchestre ça s'appelle TP Okie Jazz. C'est de là où il met le nom de TP.
TP Ndombé, depuis 1975 jusqu'à ce jour, combien de chansons vous avez composées au sein de l'orchestre Okie Jazz?
Oh, une vingtaine. Hein?
Et de toutes vos compositions, quelle est la chanson que vous aimez le plus?
J'aime tout ce que j'ai produit, j'aime tout ce que j'ai
mis. Mais il y a sûrement une chanson que vous aimez plus que toutes les autres?
Il y a cette chanson-là dont je vous ai
réagi,
oui, j'ai fait agir, c'est parce que c'est cette chanson qui a fait de moi un homme artiste, un homme vedette, un homme on appelle aujourd'hui, tu es mon immense, un homme tu es barbare, un homme tu es. C'est grâce à cette chanson, parce que on se réjouit toujours à cette chanson-là.
Na songi kisasa, okaslo omote mananga ya kisa. Na samwe mini na mote loto ningani, mikolo misa topanga oyo tokutani. Okaslo mwana kuma na buku nangani, oya ya sika bakwa kiseba nimi. Okati na mote mbamwela oyo, lika mote ya kitoko na yo na moni. Olingo eko linga imote maizali seko de la kata na bimisa. Makanisi etikali na jambo na kone na lena sopi toko barana. Olingo eto linga imote maezali seko zela kanga na bimisa. Makanisi etikali na jambo na kolela lela soki toko balana. Na songi kisasa motembe sandi na makanisi obioga. Mobembo nga nasali na paza ezali ya koloba te obioga.
Alors, Pepe Ndombé, vous n'êtes pas seulement chanteur, compositeur, mais vous travaillez aussi avec le ministre de la Culture. Vous êtes son conseiller chargé de la musique et de la chorégraphie. Bon, en quoi consiste votre travail?
Vous savez, dans notre pays, les musiciens se plaignent souvent de beaucoup de choses concernant les droits des artistes, des structures de protection des artistes, des piratages. Donc, il faudrait quelqu'un qui est déjà là-dedans, qui connaît la matière, pour éventuellement orienter le ministre dans ses décisions concernant ce secteur des musiciens.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Pepe Ndombé, nous allons parler du 20e anniversaire de la mort de Franco, célébré le 12 octobre dernier. Une série de manifestations a été organisée à cette occasion. Pepe Ndombé, depuis la mort de Franco à ce jour, quel bilan dressez-vous de l'orchestre Banaoké?
Notre orchestre Banaoké ou bien Oké Jazz?
Actuellement, c'est Banaoké. Oké Jazz n'existe plus.
Le bilan est positif. Nous avons sorti, Banaoké, nous avons sorti depuis, on a sorti 12 albums. 12 albums, c'est amplement suffisant parce que ça fait 20 ans. S'il faut compter un album après 5 ans, donc c'est amplement suffisant. Pour un groupe qui veut qui veut présenter au public des œuvres bien réfléchies et pas ramasser n'importe quel texte là pour présenter au public. Et le premier album de Banan qui est sorti en 95. C'était Simao qui en était le producteur, avec les chansons Baptiste Pétrole, qui a fait un grand succès.
Okay.
Et puis, et le deuxième album est venu après avec Cabinet Molini, et un autre qui est venu après avec Moumoune.
Mais décidément, tous les albums que vous sortez sont toujours un grand succès. Kinshasa, pas seulement Kinshasa, mais partout.
C'est parce que nous mettons le temps.
C'est quoi le secret?
C'est ici, nous mettons le temps. Nous réfléchissons beaucoup. Et sinon, quand il fait une chanson, il ne fait pas une chanson pour lui, il fait la chanson pour le public. Et nous, nous sommes un public réduit. Dans l'orchestre, nous sommes déjà un public réduit.
Et c'est quoi votre source d'inspiration? Vous vous inspirez des réalités quotidiennes de la vie?
Tout à fait. Nous inspirons des réalités de la vie.
Mais peut-être journée, on apprend que votre orchestre va naoké et la famille de Franco, vous ne vous entendez pas très bien. Qu'est-ce qui se passe?
Nous ne s'entendons pas. Comment on ne s'entend pas? Parce que nous sommes des structures différentes. C'est une structure en dehors de Manao qui ne peut pas s'entendre comment. L'enfant de Franco, quand il vient, est Mongo. Il vient chez nous, il vient voir Simao, il vient voir Papa Ndombé. On lui produit des conseils. Il y a d'autres enfants qui sont en Europe. Ceux-là, il y a des moments où nous ne sommes pas contents de la façon dont ils gèrent l'héritage que leur papa leur a donné. Voyez, par exemple, leur papa leur a donné, a laissé beaucoup de biens. Mais tous ces biens-là, ils les gèrent vraiment d'une façon catastrophique.
Il paraît que vous vous ingérez aussi trop dans les affaires familiales.
Non, nous ne vous ingérons pas. Ils ont une fondation. Mm-hmm. Une fondation leur met là. Nous, juste, c'est juste quand nous apprenons quelque chose qui va à l'encontre de ce que Franco voulait que ça soit pour lui, et c'est là où nous interpellons pour leur dire non, c'est pas bon. Et est-ce que tu peux te rendre compte que là où Franco est enterré, c'est pas honorable, c'est pas le niveau de Franco. Mais ces enfants-là, ils ont vendu l'industrie de Franco à laisser avec beaucoup d'argent. Ils n'ont pas pensé, ne fût-ce, à améliorer cet endroit-là. Quand ce moment où j'ai la pauvre Franco, l'argent qu'ils ont perçu là-bas, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup. Ils auraient pu garder le juste $50,000, et même s'il faut exhumer le corps de Franco de cet endroit-là, et aller le déposer quelque part ici, Kinshasa, même dans sa parcelle, par exemple, ils auraient dû faire ça. La maison de Franco est devenue un poulailler. Il y a des gens qui habitent, des locataires, qui sont dans toutes les compartiments qui composaient cette parcelle, et ce sont ces enfants-là qui en bénéficient et qui ne voient pas la valeur de leur papa. Et c'est là où nous ne sommes pas contents avec eux, même si nous ne sommes pas les membres biologiques de la famille Franco, mais nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents de la façon dont ils gèrent ce que Franco leur a légué. Et c'est là où ils croient peut-être que nous sommes contre, on ne s'entend pas. Mais les gens qui sont venus à côté, les suivistes que nous disons, les suivistes, les malandas, ils sont venus parce qu'ils voient des jus qui tombent là-bas et dans chez Franco. Alors, ils sont plus âgés que ces enfants. Alors, ils leur donnent des conseils qui, à la finalité, ne profitent pas. Voilà, c'est peut-être ça que les gens croient que nous, on s'entend pas. Parce que nous ne sommes pas d'accord de la façon dont ils gèrent les biens leur légués par leur
père. Non, mais c'est peut-être par là que nous allons mettre fin à notre entretien. Aujourd'hui, vous avez 65 ans.
Oui.
Vous êtes un monument de la musique congolaise. Quel conseil pouvez prodiguer à ces jeunes qui sont en train d'émerger actuellement? C'est quand même rare de voir des gens comme vous à 65 ans. Vous avez toujours du succès, vous êtes toujours connu.
Nous, quand nous sommes venus dans la musique, nous n'avons pas cherché à faire autre chose que ce que nous voyons de nos aînés. C'est-à-dire, je sais que Papa Wendo était un bon chanteur, je sais que Franco était là, Tadassé était là. La musique que nous avons commencé à faire, c'était celle dont ils nous ont laissé les traces. Mais ceux qui viennent vraiment après là, qui ont un comportement... Mais comment tu es un homme? Toi, tu es un homme. Tu vas tresser tes cheveux parce que c'est moi. Tu es un homme. Comment tu vas porter un pantalon jusqu'à laisser voir tes sous-vêtements, tes intimités?
Parlons des tresses, mais il y a votre fils qui fait ça aussi.
Il a plus ça. Okay. Il n'a plus ça. Il n'a plus ça.
Il a enlevé ça.
Quand il a commencé, il avait fait ça. Il voulait avoir son modèle à lui. Parce qu'il est parmi ceux qui ont commencé cette façon-là de tresse. Je lui ai dit, tu veux pas être célèbre parce que tu as des cheveux-là. Pour que tu sois célèbre, tu dois faire des belles œuvres, même si tu es vilain, mais si tu as des belles œuvres, en tout cas, les gens vont te suivre. Et je lui dis, tes cheveux-là, je veux plus voir ça. Il n'a plus ça. Les conseils que je leur donne, ils doivent être humbles. Quelques-uns qui sont vraiment humbles, qui sont respectueux et qui travaillent bien. Mais vous savez, quand on désigne le mal d'une société, on prend tout le monde, même les biens, ceux qui sont bons.
Oui, on les met tous dans un sac.
On les met tous dans un sac. Et tout ce que je peux leur dire, qu'ils fassent, alors la musique, qu'ils fassent de belles œuvres, qui attirent l'attention des gens, où tout le monde va se retrouver. Et une œuvre comme Maya, depuis 85, mais il y a des chansons de l'an 2000 ici qu'on ne connaît même pas. Tu ne crois pas que pour avoir un succès, pour être célèbre, il faut soit avoir un accoutrement contraire à la normale. Il faut qu'il reste humble, cet orgueil-là de moi, je suis le plus vieux, c'est moi qui beaucoup.
C'est la fin de cette émission. Je recevais pour vous Ndombe Opetou, alias Pepe Ndombe, auteur, compositeur, chanteur au sein du groupe Banaoke. Il est aussi conseiller du ministre de la Culture, chargé de la musique et la chorégraphie. Merci de nous suivre partout dans le monde grâce à notre site internet www.radiocapi.net, mais également à travers toutes les RDC. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end en compagnie du programme de Radio Capi.